penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Franck Amouroux, un passionné de musique, amoureux de la Bretagne et mordu de radio. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau projet éditorial que je produis pour ce début d'année 2020. Quelque part, entre le podcast audio, la création sonore et l'émission de radio, ce nouveau format peut être écouté sur les différents supports audio numériques. Chaque semaine, je vous propose de passer 30 minutes avec moi dans cette nouvelle série d'émissions qui commence aujourd'hui, en ce mois de janvier. Cette émission consiste en quoi ? Elle donne la parole aux acteurs, créatifs, résidents, personnalités, organisateurs du monde de la musique en Bretagne. Je l'initie avec le plein d'idées, le plein d'envies, le plein de surprises, le plein de choses à découvrir et à écouter. L'objectif est de s'en mettre plein les oreilles, du bon son, des propos émouvants, apprendre des vies, analyser des parcours, étudier des cheminements. D'écouter ces témoignages et découvrir les réussites, les passages à vide, les échecs et les moments étonnants. Chaque mois, un invité évoque à notre micro son parcours de vie, mais aussi la Bretagne. Ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport que notre invité peut développer ou pas avec la région Bretagne, sa région de résidence et le fait qu'il se sente appartenir à ce coin de la planète. Cette presqu'île si particulière et attachante. De Louvigné du désert à Ouessant et de Corcouet-sur-Logne à Plogoff. Nous parlerons de ce coin de l'ouest de l'Europe que je dois bien avouer dès le départ et au premier mot de cette première émission. Je surkiffe, vous l'aurez compris. Dans notre émission Les empreintes musicales, notre premier invité est devenu l'un des sages des musiques actuelles. Une personne discrète, un musicien guitariste au tout début des années 80. Et une quarantaine d'années plus tard, et malgré tout ce que l'industrie musicale a pu traverser, comme crise ou immense succès commercial, l'homme semble être resté le même. Immuable, placide, un menhir dans la tempête. Passionné par la musique, il a abordé professionnellement une grande partie des métiers de directeur artistique, éditeur, conférencier, producteur. L'homme a participé à la réalisation de certains albums aux sonorités des années 80 si particulières. La sagesse qui émane de son apparence est sans doute liée à sa pratique assidue de l'aïkido, un art martial japonais. À 64 ans, il est détenteur de la ceinture noire 6e Dan. Un niveau exceptionnel en France. Il nous expliquera tout ça dans la quatrième et dernière partie de cette série d'émissions que nous commençons aujourd'hui. C'est une silhouette longitudinale que nous recevons aujourd'hui. Il est né le 5 septembre 1955 à Saint-Malo. À 64 ans, son pseudo d'artiste Anzia évoque sans doute un intime souvenir à de nombreux amateurs de musique rock des années 80-90. Notamment sur la région rennaise. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines alors qu'il dispensait une conférence à la médiathèque de Pleuhermel. Woodstock, l'explosion des festivals.
Les empreintes musicales.
Bonjour Anzia Gilles Rethel. Déjà on va commencer par là. Comment vous appelez pour cette émission ? Anzia Gilles ?
Gilles.
D'accord. Une naissance donc en septembre 1955 à Saint-Malo, dans un univers de musiciens, d'enseignants.
Non, pas spécialement. J'ai pas trop à dire là-dessus. Mes quatre grands-parents faisaient de la musique. Hein. Mon grand-père paternel était premier prix de conservatoire à Rennes. Voilà. Mais aucun n'en faisait un métier. Il était basse, voix. Ma mère dit encore souvent, puisque j'ai la chance de la voir, qu'elle a su jouer du piano avant d'aller à l'école. Mon père pas du tout. Et quand elle a épousé mon père, en fait, non, ça s'est arrêté, net.
Donc toute cette enfance passée à Saint-Malo, c'est quand même un beau terrain de jeu.
Oui, sauf qu'on n'en a évidemment absolument pas conscience. Hein. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir une enfance plutôt protégée. Je veux dire, il n'y a pas eu de coup dur, il n'y a pas eu de décès dans la famille, de problème de chômage, ça n'existait pas de toute façon à l'époque. Donc aujourd'hui, j'ai ce regard-là sur une enfance protégée. Probablement que je ne le sentais pas du tout comme ça à l'époque. Hein. J'étais curieux, très curieux. Je me rappelle que mon père achetait tout l'univers, des choses comme ça, sans doute pour nous cultiver, mon frère et moi. C'est à peu près... si je cherchais, je trouverais autre chose, mais je n'avais pas d'intérêt particulier pour le foot ou le sport, par exemple. Quand on fait une recherche dans sa mémoire, on finit par trouver des trucs. Hein, après tout, ils sont là, même s'ils n'apparaissent pas tous les jours. Donc je me rappelle très très bien notre premier numéro de tout l'univers, décidément, incroyable. Ça m'a marqué. Et c'était sur les dinosaures. Hein. Donc aujourd'hui, ça devient courant, mais à l'époque, ça ne l'était pas tant que ça. Et je me rappelle effectivement que ça m'avait pas mal marqué. Ceci dit, j'étais assez intéressé dans tout l'univers par des articles qui étaient plutôt des articles artistiques hein, sur la peinture, sur l'architecture. Et je me posais des questions tout à fait existentielles, même enfant. Qu'est-ce qui nous fait aimer un tableau? Pourquoi on aime un tableau? Voilà. Je n'ai pas toujours la réponse encore aujourd'hui. Par exemple, je me rappelle, il y avait un article, et je ne comprenais pas l'article hein, sur l'architecture. Et en particulier, il disait « telle église, c'est beau » et tout. Et il y avait la cathédrale de Gaudi, là, à Barcelone. Et pour eux, c'était moche. Et je trouvais ça génial. Et donc là, ça me choquait, je ne comprenais pas. Ça renforçait encore plus ma question de savoir, en fait, comment on pouvait déterminer quelque chose qui soit beau ou pas, quoi. Il va y avoir une hiérarchisation, évidemment. Ça veut dire que moi, ce que j'aime, ou ce que quelqu'un d'autre aime, n'est pas forcément partagé par d'autres. Et qu'est-ce qui reste en définitive dans l'histoire si on regarde, on dit Bach, il ne fait pas beaucoup de doutes quand on regarde comment ça se passe, comment c'est construit, que c'est important et c'est beau. Mais il y a des gens qui trouvent ça nul. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même un cerveau qui est construit de la même façon pour tout le monde et on sait aujourd'hui dans les neurosciences qu'on est plus attentif à certains intervalles qui sont communs sur toute la planète. Hein. Mais évidemment, après, il y a une dimension plus personnelle et puis il y a aussi une dimension culturelle. Et ça se travaille, clairement, ça se travaille. Comment ça apparaît cet intérêt pour la musique relativement tôt? Je crois que ma mère m'a dit que quand elle entendait de la musique et qu'elle était enceinte, je battais de la mesure, en fait, dans son ventre. Mais bon, là, c'est une compétence fondamentale et très archaïque, en fait, cette histoire de synchronisation avec le rythme. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment pour indiquer quelque chose par rapport à la musique. Chez mes parents, il n'y avait pas tant de musique que ça. C'est donc assez bizarre par rapport à mes grands-parents et puis à ma mère, qui était pianiste, elle, hein, parce qu'il n'y avait pas de piano. Il y avait bien un électrophone que j'ai beaucoup utilisé. Je pense qu'autour de 7-8 ans, oui, j'ai dû commencer à écouter des disques qui étaient à la maison. Parce que la collection n'était pas très grande, elle n'était pas très, travaillée en termes de filtrage et organisée. Enfin, ce n'était pas une vraie culture construite, on va dire. Donc, mais il y avait des disques de musique classique de ce qu'on appelait la guilde. Et qui était une espèce d'abonnement et on recevait tous les mois ou les deux mois un disque et c'était une façon de se construire une culture. J'adore la musique classique et il est probable qu'une partie de la construction que j'ai fait sur moi sur la musique classique, elle vient de là. Plus tard, mon père a refait ça avec, ça devait être les éditions Hachette, hein, c'était tous les 15 jours. Ou tous les mois, un livret explicatif sur un artiste, son temps, etc. Il y a des choses qui m'ont marqué. Je m'appelle Scarlatti, que je ne connaissais pas du tout. Ça a été un choc. Hein. avec mes mots à moi, parce que j'y connaissais strictement rien, mais je trouvais ça très moderne en fait par rapport à d'autres musiques classiques que j'écoutais, que ce soit romantique, je pense à Tchaïkovski ou des trucs comme ça, ou baroque, qui était très daté, mais dans le bon sens pour moi. Scarlatti, c'était vraiment très très original pour moi. Donc en fait, j'ai continué sans arrêt à écouter cette musique-là. Je ressentais là qu'il y avait quelque chose dans la couleur, des choix de notes, des accords, qui était différent de ce que je connaissais en musique classique et que je trouvais, mais avec ma grille à moi, hein, moderne.
Sonate en ré mineur de Domenico Scarlatti.
Les empreintes musicales.
Moi, j'ai pas de souvenirs comme ça avant 7-8 ans. Et ce que j'ai dit là sur ces musiques classiques, on est plutôt autour de 13, 14, 15, quoi. Hein. Et là, oui, il a commencé à avoir un franc intérêt là pour la musique. Hein. Toutes les musiques me touchent comme tous les ados, en fait. Hein. C'est-à-dire que tous les ados ont un rapport quasiment fusionnel à la musique. Hein. Et donc, j'ai pas échappé à ça. Et peut-être encore moins que les autres. Hein. Et donc j'étais une vraie éponge. Comme je n'avais pas de capacité à décider ce qui était bien ou pas, je me rappelle me poser une question, mais plus tardive, hein, autour de 13-14 ans, même peut-être plutôt 11-12, est-ce que c'est bien d'écouter Sheila, par exemple, hein, Donc ça veut dire qu'avant, entre 7 jusqu'à 10, 11 ans, mon rapport à la musique, il passe pas par les disques, en fait, il passe par la radio. Même s'il y a peu de radio, il y a quand même pas mal de musique à la radio. Il n'y a que 3 chaînes, je le rappelle, pour les plus jeunes. À l'époque, il n'y a que 3 chaînes qu'on peut écouter. Et j'écoute beaucoup la radio. Et alors, je n'ai pas cette conscience-là. Je n'ai pas d'approche, évidemment, sociologique. Hein. Je ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui se passe autour de la jeunesse à ce moment-là. Je pense pas mal écouter aussi de la musique avec mon père, avec son autoradio. Il avait un autoradio. Il faisait beaucoup de routes, lui, hein, pour son métier. Là, à 15 ans, je commence à avoir des idées quand même assez précises hein, de ce que je veux écouter, vers quoi je vais, ce que j'aime. Si j'avais le temps, je ferais un bouquin sur une émission qui a été incroyablement importante en fait pour toute une génération de jeunes. C'est le Pop Club de José Arthur. Donc cette émission là qui choisissait de façon vraiment exceptionnelle les disques et qui se permettait en plus qu'il n'est plus possible aujourd'hui quasiment de passer toutes les heures le morceau en intégralité. Chamber Brothers, quand même, The Time Has Come, c'est 11 minutes quand même. cette émission-là a été très très formatrice.
24 heures sur 24, la vie serait bien dure si l'on n'avait pas le Pop Club avec José Arthur.
C'est plus tard, hein, c'est au début des années 70 que vous investissez, vos parents investissent pour vous dans une guitare.
70, oui, c'est la guitare. Là, je suis un rebelle, là, hein, parce que je ne veux pas prendre de cours. Mais ma mère voit bien que là, il y a un intérêt pour la guitare qu'il va falloir quand même... enfin, en tout cas pour la musique, hein, qu'il faut essayer de cultiver. Et donc, effectivement, elle m'offre une guitare. Là, à 15 ans, je commence à avoir des idées quand même assez précises hein, de ce que je veux écouter, vers quoi je vais, ce que j'aime. Moi, qui est occupé à peu près tous les côtés et tous les métiers possibles dans le secteur de la musique, les jeunes aujourd'hui ont du mal à imaginer le désert total que c'était dans les années 70. Quoi, hein. Il n'y avait aucune école. Donc je me rappelle avoir acheté des partitions. Je pense que les deux premières partitions que j'ai achetées, c'était Electric Ladyland de Jimi Hendrix et les deux premiers albums de Led Zeppelin. Sauf que c'était effectivement pas des tablatures, ça n'existait pas quasiment à l'époque, hein, et que c'était de toute façon pas du tout ce qu'ils jouaient. C'est-à-dire c'était ce qu'on appelle une réduction piano-voix, quoi, des morceaux. Donc il y avait globalement ce qui était utilisable là-dedans, c'était que les accords, quoi. Voilà. Ce qui n'était évidemment pas ce que je cherchais.
Votre rencontre avec Philippe Pascal, donc c'est donc au lycée. Ouais. Vous lui faites part de votre appétence à vous pour de culture rock underground américaine, plutôt. Et lui vous transmet sa passion pour l'origine du blues dans le delta du Mississippi. Aux origines, c'est donc les années 20-30. C'est avec cette passion et cette envie de découvrir musicalement, enfin, réciproquement la musique de l'autre qu'est née cette amitié au départ, j'imagine.
Là, on est en 71-72, hein, quelque chose comme ça. Hein. Donc, je suis déjà mais vraiment à fond là, dans la musique, le rock, rock anglais, rock américain, malheureusement rock français quasi inexistant. Et puis là, j'ai un vrai problème avec les textes à ce moment-là. En tout cas, le chant français, on va dire. Mais bon, c'est évident que c'est autour de la musique que c'est commencé à construire notre amitié. Oui, mais on était dans la même classe, oui, tout à fait. Oui. Ce qu'il a raconté, ce que vous venez de rappeler, est tout à fait exact. Hein. C'est moi qui lui ai fait connaître les Stooges et le Velvet. Je sais pas si c'était une bonne idée, d'ailleurs. Enfin, bon, mais c'est vrai que lui, alors là, ça a été aussi une révolution pour lui, manifestement. Et peut-être plus encore le Velvet que les Stooges, parce que il y avait une dimension sans doute, et c'est pas péjoratif là, hein, un peu intellectuelle, hein, une réflexion sur une construction de la culture qui n'était pas bas de gamme, quoi. Et donc là, il a vraiment sauté là-dessus, et on a commencé à construire quelque chose là-dessus, en fait. Hein.
Vos centres d'intérêt à vous et votre orientation scolaire se dirigent vers quel type de métier, quel type d'études à ces moments-là, donc fin du lycée.
Alors c'est assez clair, vers rien du tout. Ah non, mais franchement, vers rien, j'ai aucune idée, j'ai fait mon cursus, Je vois pas du tout ce que je peux en faire. Comme j'ai un bac D, je vais aller plutôt en fac de sciences. Et je ne le regrette pas, hein, ça m'a construit aussi en termes de rigueur, en termes de méthodologie. J'étais vraiment à l'aise là-dedans. Mais faire toute ma vie là-dedans, non, c'était pas vraiment... J'avais aucune idée. Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui encore, j'en ai aucune idée. J'ai aucun plan de carrière, moi, jamais. À ce moment-là, Philippe, lui, il était... Enfin, c'était même un peu avant. Il était instit, hein, donc il était à l'école normale. Donc là, on se voyait de façon régulière et on avait commencé à créer... des petits duos où on pouvait faire du blues, hein, où moi je faisais du picking et que lui chantait, et puis faire des petites reprises du Velvet, I'm Waiting for My Man par exemple. Hein, et puis, comme lui habitait avec ses parents à Dole, hein, il y a eu un moment important, c'était la maison des jeunes avec la culture de Dole, hein, qui était dans une vieille bâtisse. Hein, mais qui nous a bien été utile pour échanger avec d'autres musiciens d'ailleurs, hein, de Dole. C'est vraiment là qu'on a commencé à travailler ce qu'on peut appeler un groupe. C'était encore moi à Saint-Malo, lui à Dole, et puis on a perduré en fait quand moi j'ai été à Rennes. À ce moment-là, lui il a commencé à être instit. Et donc je me rappelle avoir été plusieurs fois chez lui à Vieuxvielle, pas très loin de Pont-Orson dans ce coin-là. Son père était très fan de science-fiction, hein. Il avait une collection de bouquins de science-fiction assez impressionnante, hein. Et Philippe avait des connexions, il avait trouvé des connexions assez rapidement pour avoir des disques américains, Folkways par exemple, ou biographes de blues américains, mais aussi des BD. Il était très très fan de BD. Donc en fait c'était la continuation de l'amitié qui existait entre nous en construisant quelque chose. Elle a démarré quand on était à Saint-Malo, moi à Saint-Malo, lui à Dole, et elle a perduré en fait quand moi je suis allé à Rennes. Donc on a un petit groupe avec Philippe qui s'appelle Pentasol Lisley. On fait 3 concerts avec ça et ça se passe moyennement bien, ce qui est normal après tout pour un groupe qui démarre. On le sent pas trop, et c'est là, c'est un concert, c'est sur le premier qu'à l'époque, le bassiste des Marquis de Sade, Rocky, Christian Dargelos, voit Philippe, hein, et se dit, tiens, voilà un gars qui semble avoir une certaine prestance sur scène, et demande si ça l'intéresserait pas de chanter dans Marquis de Sade, ce qu'il n'accepte pas tout de suite, hein, mais qu'il accepte après... Après le 3e concert de Pentasol Lisley, où on décide quasiment de s'arrêter, en fait. Donc après, il y a une longue histoire. Moi, je continue à Rennes, la fac. Et je me rappelle Philippe venant me voir. Donc ça doit être en 2e année de fac. Hein, je me rappelle à cause de la localisation de ma chambre d'étudiant. Très fier de lui, et après tout, il avait raison, avec le premier 45 tours de Marquis de Sade, Henry et Ertheisel. Ce qui était évidemment une étape et une marche fondamentale pour tous les musiciens en fait, qui existaient à Rennes, hein, puisque à l'époque, pratiquement personne ne faisait d'enregistrement. Et là, c'est toute la fine équipe de Thérapin, enfin, je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait Thérapin, je crois que si, déjà, avec le 4 pistes, enfin bon, le bouquin qui est sorti récemment avec Patrice Poche l'a refait de façon très très précise l'historique de ça. Donc avec le 4 pistes de Fred Renault, malheureusement trop tôt disparu. Bon là, clairement, il y avait un turnover des musiciens à l'intérieur de Marquis de Sade très impressionnant. Pour des tas de raisons, c'est très complexe là, donc on va pas rentrer dans les détails, mais c'est clair que c'est un moment Philippe qui dit ok, tu viens quoi, donc il m'a imposé dans le groupe, hein. Voilà, donc c'était en 79, début 79, donc Crépé, premier concert avec Marquis de Sade, et puis l'été avec quasiment le premier studio de la région, un studio DB qui n'existe plus aujourd'hui, enregistrement sans doute en juillet. C'est en 79, donc c'est juste avant l'enregistrement. Donc c'est les seules transmusicales qui ont effectivement eu lieu en juin. À l'époque, notre manager, entre guillemets, c'est Thierry Lewitouz, hein, qui sera le régisseur général pendant de très très longues années après les transmusicales. Oui, on est présent à ce premier festival des transmusicales. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir, donc moi je comprends absolument pas ce qui se passe autour du groupe, hein. Je suis totalement concentré sur la musique d'abord parce que j'estime et je pense que c'était vrai, j'étais pas très bon à l'époque et que je savais pas composer, donc ça c'est une vraie question aussi qui se pose après. Je ne sais pas comment se fait la connexion avec des journalistes parisiens, une petite boîte de prod qui se monte qui s'appelle CBH, et c'est eux qui vont être les producteurs du premier Marquis de Sade et du deuxième aussi d'ailleurs, on vient de récupérer les bandes là, et en particulier un des trois qui est décédé aujourd'hui, Thierry Houpet, qui est journaliste à Libération et qui va faire un grand papier dans Libé sur les premières transmusicales, et en mettant un peu en avant, évidemment, Marquis de Sade. Mais c'est vrai que comme moi, je suis totalement autodidacte, hein, et que j'estime, je le confirme encore aujourd'hui, je suis plutôt lent à comprendre des aspects assez complexes là, de composition, de choses comme ça, probablement parce que j'ai besoin d'avoir une vision globale, quoi. J'arrive pas, moi, intuitivement, à dire, tiens, on va faire ça... Non, il faut que je commence à avoir une compréhension de la globalité. Donc ça, c'est une vraie question là, que je me pose à ce moment-là, effectivement. Comment on compose ? Bon, comme tout le monde, en fait, en définitive. Hein. mais bon, j'ai fini par régler ce problème-là. Oui, il n'y a pas de problème. Ce qui est difficile, c'est d'avoir cette fibre... lorsqu'on joue à la guitare, par exemple, et de se dire « Ah, là, il y a un truc qui pourrait être la petite graine avec laquelle on va faire un morceau. » Donc là, il faut développer une espèce de sensibilité un peu particulière, quand même, oui.
Gilles Rethel, notre invité du jour pour cette entrevue. Et merci à Christophe du bar Le Panama à Rennes pour la mise à disposition de son lieu. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.